Constancy. Association des chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne.
Monsieur Bonjour. Guillaume Foc, recteur du séminaire de Nantes.
Enchanté, Jean-Yves, Jean-Yves Beaune. Et donc j'ai fait la Via Ligeria via Frontigena et je suis passé à Bucelégie. Et vous étiez
c'est sur l'oignon.
Oui. Ah, ça, c'est avant. Parce que quand on vient de la Via Frontigena, on arrive à Bucelégie.
Oui.
Après, on va en marche en direction de
Montboyon.
Que
c'est sur l'oignon. Besançon.
Quelle distance il y a entre Bucelégie et Besançon?
Oui. Il y a.
J'ai le souvenir, moi, d'avoir fait ça en une seule fois, non? C'est possible?
Ah oui, c'est possible.
Oui, ben j'ai fait ça en une seule fois.
Il n'y a pas de difficulté.
Non. J'en ai un mauvais souvenir parce que j'ai eu un accident. Je vais peut-être raconter l'anecdote, mais j'ai fait une mauvaise chute. Et ça s'est terminé. Ça s'est terminé à l'hôpital pendant 8 jours. Et j'ai repris le chemin.
À Besançon?
À Besançon, une erreur de débutant. J'ai plié mes bâtons et puis j'ai fait une. J'ai trébuché, j'ai fait une mauvaise chute, je suis tombé lourdement sur en avant, la tête en première. J'emporte les stigmates hein, sur le nez, sur le front et tout. C'était. Alors, naturellement, la famille, les amis, ils disaient maintenant ça suffit, tu rentres et non.
Alors, moi, ça m'est. Sur la Via Francigena, on était en Italie, c'est pareil. Pourtant, je ne mets jamais les dragons, mais je suis tombé. Ouf, je me suis mis ouvert. Hein.
Bonjour ou rebonjour à tous. Dernière table ronde du 3e Forum Nantais des Chemins. On va aller à destination de Rome dans une année très particulière, l'année du jubilé. Alors on reviendra tout à l'heure avec nos invités sur ce qu'est un jubilé et pourquoi c'est en 2025. Avant de commencer cette conférence, on a... Vous savez, pour ceux qui étaient là hier soir, on a remis un prix à Compostelle 2000, l'Association parisienne des chemins de Saint-Jacques, qui accompagne des PMR vers Saint-Jacques, avec vraiment un beau projet d'accompagnement pour donner la possibilité à tous de partir en pèlerinage. On va remettre un prix un peu surprise maintenant, qu'on devait faire hier soir, et puis pour des raisons d'organisation, ça ne s'est pas fait, mais ça va se faire maintenant. Et on souhaitait, avec les haltes pèlerines, venir en aide, ou du moins en aider, ouais, c'est ça, plutôt aider, l'association Web Compostela, qui est l'association qui tient l'accueil francophone à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui accueille donc les pèlerins francophones là-bas à la cathédrale, qui leur propose des temps d'échange, des visites, mais je crois que c'est un peu compliqué les visites en ce moment, si j'ai bien compris, et puis pour ceux qui le souhaitent, une messe en français. Philippe, s'il te plaît, on va accueillir Philippe Chauveau, qui est président de Web Compostela. Bienvenue Philippe, tu tiens un stand depuis hier. Et voilà, dans ce qu'on fait, ben voilà, il y a beaucoup d'entraide. Et on souhaitait, l'association des haltes pèlerines souhaitait te remettre une aide financière. de 300 euros pour vous aider à continuer ce beau projet d'accueil des pèlerins francophones à Santiago de Compostela. Voilà.
Anthony, comme tu disais, c'est vraiment une surprise parce que quand il m'a parlé hier soir de ce chèque, j'étais désolé de ne pas être là hier soir parce qu'on était accueillis chez des amis qui ont 6 enfants. Il faut plutôt être là de bonne heure quand il y a 6 enfants à manger. Je te remercie très, vraiment beaucoup parce que c'est une aide très concrète, très matérielle. Et comme tu dis, on est en difficulté à Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'on est, on est interdit de conférences extérieures de la cathédrale. Voilà, donc il faut qu'on trouve d'autres moyens. Et on tient absolument à continuer cet accueil francophone qui demande des moyens parce qu'effectivement, j'admire beaucoup tout ce que, tout qu'on voit dans les stands actuellement ici. C'est des, l'accent local et avec beaucoup de soutien de la population et des autorités locales. Nous, c'est plus compliqué parce qu'on est loin de chez nous. On est à l'autre bout. On fait l'expérience, c'est vraiment des étrangers là-bas. Et donc, devoir travailler avec les autorités galiciennes en particulier. Voilà. Donc, merci beaucoup de ce soutien très concret et puis de ce soutien aux bénévoles. Merci, Anthony.
Bon, merci, Philippe, de tes mots sympas. Je vais quand même te donner le vrai tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Voilà, allez, on va débuter notre conférence sur l'année jubilaire et les chemins qui mènent à Rome. Parce que tous les chemins mènent à Rome. Alors moi, je suis Anthony Gouard, je suis le président des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique, le cofondateur du Forum Nantais des Chemins avec Thibaut Dubois de la Librairie, Siloé qui est là-bas, tout au fond, voilà. Et puis Anne-Laure et toute la fabuleuse équipe, mais j'y reviendrai, des Haltes Pèlerines tout à l'heure. On va donc se lancer. On a fondé tous les deux la Via Ligeria, le chemin qui permet depuis l'ouest, depuis la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, de gagner Saint-Pierre de Rome. Donc on aura des cartes qu'on va faire défiler tout à l'heure. Et c'est un chemin qui est particulier parce qu'il va s'étendre sur 800 km plein est. On va vous donner des détails tout à l'heure. On a des pèlerins qui l'ont déjà parcouru. Ils sont aussi dans la salle là. Voilà, un chemin différent, un chemin. On peut qualifier d'espérance, un chemin d'espérance aussi, parce que la destination, notamment dans cette année jubilaire, est très particulière.
Alors que cette année encore, près de 500 000 personnes sont arrivées à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autres sentiers moins fréquentés, plus intimistes, conduisent les pèlerins vers d'autres lieux sacrés. Depuis l'Antiquité, le tombeau des premiers apôtres a mis en route des cohortes de fidèles. Les habitants de l'Ouest n'y ont pas échappé. Ne disait-on pas que Saint-Clair, premier évêque de la ville, aurait ramené de Rome un des clous qui avait servi à crucifier Saint-Pierre ? En Bretagne, un saint qui est particulièrement connu, c'est Saint-Main. Eh bien, Saint-Main, abbé breton, avait chassé un dragon de la région angevine en revenant du tombeau des premiers apôtres. Les tracés vers la cité vaticane sont donc plus que millénaires et cette année jubilaire permet de les mettre en lumière.
Alors pour en parler avec nous cet après-midi, nous avons la joie d'accueillir le père Guillaume Lefloc, recteur du séminaire de Nantes, mais aussi ancien recteur de l'église Saint-Yves des Bretons dans la cité romaine. Bienvenue, père Guillaume. Merci. On accueille aussi Claude Sancier, qu'on connaît bien, parce qu'il nous aide beaucoup dans la partie bourguignonne et franc-comtoise pour la Via Ligeria. Claude, tu es président de l'Association des chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne-Franche-Comté, et tu es aussi le vice-président de la Fédération française de la Via Frecigena. Encore pour 3 semaines, me dit-il. Voilà. Et puis, on accueille Jean-Yves Beaune, un Sartois, qu'on connaît bien, membre de notre association, et puis aussi pèlerin de la Via Ligeria qui est arrivé à Rome et qui a dépassé Rome, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Alors Claude, est-ce que tu peux nous parler de l'origine de cette Via Frecigena qui part de Canterbury et qui va jusqu'à Rome ?
Merci. Alors pour parler de cette voie, en fait, il faut remonter à Jules César. Jules César a créé une voie commerciale vers la mer du Nord. Et cette voie, qui a emprunté des voies romaines, évidemment, a été baptisée Via Frecigena vers le 9e siècle, c'est-à-dire, en fait, la voie vers les Francs. C'est ce que ça veut dire. C'est devenu un chemin de pèlerinage quand l'archevêque de Canterbury, Sigéric, s'est rendu à Rome par cette voie pour aller récupérer son pallium, c'est-à-dire l'étoffe de l'archevêque, auprès du pape Jean XV. Ce n'était pas simplement pour récupérer son pallium, c'était surtout pour marquer sa soumission au pape Jean XV. Et à son retour, alors, dans les textes, vous verrez, à son retour, il a marqué les étapes par lesquelles il est passé. La réalité, c'est qu'il a fait marquer par son scribe les étapes par lesquelles il est passé. Et donc, ce chemin est devenu, à partir de là, un chemin de pèlerinage vers Rome. La particularité de ce chemin, c'est que comme il a fait l'aller et le retour, on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est ce qu'il faut bien préciser. Alors, ce chemin en Angleterre, ça s'appelle pas la Via Francigena, ça s'appelle le North Down Way. Et en fait, de Canterbury à Douvres, il n'y a que 31 km. En France, ça a été balisé selon le GR 145. Alors, pourquoi un GR 145 ? C'est tout simplement parce que dans la partie ouest, alors ça passe dans le département de l'Aisne et dans les Ardennes, vous avez le GR 14. Et dans la partie est, du côté de... Alors ça part du Ballon d'Alsace et ça passe à côté de Pontarlier de Jougne et ça descend vers Nice, vous avez le GR 5. Et ce GR qui a été créé, il a été créé entre deux GR. Donc 14, 5... ça fait 145, et non pas 19, parce que le GR19 existe. Donc voilà, donc c'est voilà pourquoi c'est devenu 145. Wow. En Suisse, alors en France, il est balisé donc comme un GR qui a pris d'ailleurs des libertés par rapport au chemin historique, à trois reprises. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. En Suisse, le GR... le chemin, la Via Francigena devient le chemin 70. Et en Italie, alors c'est très amusant parce que vous avez un balisage et surtout beaucoup de bornes. Et les bornes sont spécifiques à chaque région. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir quand on change de région, parce qu'on change de couleur de borne et de forme de borne jusqu'à Rome comme cela. Voilà. C'est devenu un chemin de pèlerinage qui est tombé au XVIIIe siècle en désuétude. Ça a été un peu abandonné. Et ce chemin a été relancé vers 1980. Et il est inscrit depuis 2004 comme grand itinéraire des chemins inscrits au Conseil de l'Europe. Voilà.
Merci Claude. Faire le floc, cette année, c'est une année particulière, comme c'est sur le relop qu'on voit à côté de vous, puisque c'est une année jubilaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un jubilé ?
Alors, un jubilé, c'est un mot qui vient d'abord de la Bible, du livre du Lévitique. Les Juifs aiment beaucoup quantifier le temps. Et ils accordent une grande importance aux fêtes et au calendrier liturgique. Et ils ont instauré, dans le livre du Lévitique, ou plutôt Dieu a instauré, tous les 50 ans, une année qu'on appelle le Grand Jubilé, ou le Shabbat HaShabbatim, c'est-à-dire le sabbat des sabbats, durant laquelle toutes les relations humaines et sociales sont remises à plat. C'est-à-dire que si vous avez des dettes envers quelqu'un, les dettes sont effacées.
C'est cool.
C'est cool. Hein ? Si vous avez des soucis et que vous êtes opposé à quelqu'un, eh bien, c'est une année pour vous réconcilier. Si vous avez tout perdu et que vous vous êtes vendu, que vous êtes devenu esclave, eh bien, votre maître est obligé de vous libérer. Voilà. Donc c'est un magnifique programme social pour redonner une chance à tout le monde, tous les 50 ans. Ça, c'est la théorie.
Comment ça ? Mes dettes parce ne que, seront pas effacées cette année ?
Voilà, parce que dans les faits, il n'y a pas trop de témoignages historiques que cela a été formellement appliqué. Mais il n'empêche que la Bible a été profondément marquée par cette idée que tous les 50 ans, on puisse vivre une année particulière, un peu de remise en question et d'une certaine remise à plat, plus ou moins forte, plus ou moins impliquante, mais quand même, voilà, pour tous, pour les croyants en tout cas. Ce jubilé, cette idée du Lévitique, a été reprise par le pape Boniface VIII, en 1300, qui, après des années et des siècles de guerre civile à Rome, a voulu relancer le pèlerinage auprès des tombeaux des deux apôtres, Pierre et Paul. Et il a voulu, à ce moment-là, reprendre l'idée du grand jubilé du livre de la Bible, du livre du Lévitique, et il a instauré pour toute l'Église un grand jubilé durant lequel tout pèlerin qui ferait le pèlerinage pour aller à Rome se verrait obtenir le pardon de tous ses péchés et l'assurance du paradis. Et donc, des centaines et des centaines de milliers de personnes se sont mises en route à partir de cette date, tous les 50 ans. En 1975, dans les années 1960, quand Paul VI a été élu pape, une des décisions qu'il a prises, ça a été de se dire 50 ans, c'est trop long, et donc on va réduire l'intervalle entre deux jubilés à 25 ans. Et il a instauré l'année sainte de 1975, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Le pape Jean-Paul II a vécu le grand jubilé de l'incarnation de l'an 2000, qui a été un moment très fort pour la vie ecclésiale. Et là, nous arrivons en 2025, cette année, avec le pape François, au grand jubilé de 2025. Voilà. Donc maintenant, le jubilé dans l'Église, c'est tous les 25 ans.
Alors, qu'est-ce qui se passe une année de jubilé à Rome ?
Eh bien, on est invité donc à passer une porte sainte. Une porte sainte, il y en a 4 à Rome. Et puis le pape a voulu étendre cela. Il en a mis une à Assise, une à Padoue, dans deux lieux très forts de la vie franciscaine, pour montrer son attachement à Saint-François d'Assise. Il en a mis une autre à Bethléem, à Jérusalem et à Nazareth. Voilà. Il y a 7 portes saintes, il y a 9 portes saintes en tout pour cette année jubilaire à Rome. En fait, il y en a même une dizaine, parce qu'il vient d'en ouvrir une autre. Les 4 à Rome, les 4 grandes, c'est les 4 basiliques majeures, Saint-Pierre du Vatican, Saint-Paul hors les murs, Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie-Majeure. Et il y a un mois et demi, le pape en a ouvert une autre dans une prison de Rome pour dire que les prisonniers aussi, qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent passer cette porte sainte. L'idée de passer la porte sainte, c'est la symbolique de vivre un changement dans ma vie, de dire que je passe une étape et que je laisse quelque chose à l'extérieur, que j'entre dans une nouvelle maison, j'entre dans une nouvelle étape de ma vie.
Donc vous avez bien compris, 2025, tout le monde à Rome. Hein. Jean-Yves, quand as-tu décidé de te lancer vers Rome ? Pourquoi et comment as-tu décidé aussi de partir de chez toi ? Alors ça fait plein de questions, mais je sais que tu vas tout y répondre.
Bonsoir à tous. Donc, peut-être un peu d'histoire, sans vous raconter toute ma vie ni toute mon histoire. Simplement, il y a quelques années, je suis parti en retraite et à l'occasion de mon pot de départ en retraite, j'ai rassemblé donc mes amis ou toutes les personnes qui ont pu compter au cours de ma carrière. Et j'ai terminé mon propos en balisant mon chemin de la manière suivante, en disant, eh bien, je vais d'abord consacrer l'essentiel de mon temps à ma famille, que j'avais peut-être un peu sans la mettre de côté, mais à qui je n'avais pas consacré tout le temps nécessaire. Donc ma famille d'abord. Ensuite, mettre véritablement en place une association humanitaire qui me trottait à l'esprit donc, depuis plusieurs années au Burkina Faso, donc à Dano plus précisément, pour scolariser des enfants. Et puis j'ai terminé mon propos, à la surprise de tout le monde, en disant « Enfin, je voudrais vérifier si vraiment ce qu'on dit est vrai, à savoir que tous les chemins mènent à Rome. » J'ai terminé mon propos de cette manière. Le Covid est passé par là. Beaucoup de mes amis ou ma famille pensaient que j'avais oublié l'idée. Et non, donc l'idée a ressurgi juste après le Covid. Et donc, j'ai commencé à préparer mon chemin sur la promesse que je m'étais faite. Tous les chemins mènent à Rome. Oui, mais par où on part ? Donc, j'ai étalé une carte et puis j'ai pris une règle. Et puis en disant, Saint-Gervais-en-Blain, là où j'habite, au sud du Mans, pour aller donc vers Rome, je dois passer par là. Et ce n'était pas du tout, finalement, le chemin que j'ai emprunté, parce que la Providence elle s'est déjà mise sur mon chemin, puisqu'un ami à qui je racontais donc mon questionnement me dit, j'ai vu sur Internet qu'il y avait donc un chemin qui était débroussaillé, même déjà un peu balisé, déjà, décrit. Et j'ai pris connaissance de cette manière de la Via Ligeria. J'ai passé un coup de fil à Anthony. C'était en février 2022. Le chemin était tout juste naissant. Et donc, j'ai eu le plaisir de l'emprunter en commençant en avril 2022. Alors, pour rejoindre la Via Ligeria, on a un chemin, puisque Le Mans est sur le chemin Montois qui rejoint donc le Mont Saint-Michel à Tours, la Via de Tours pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'habite juste sur ce chemin, donc j'ai pris le chemin jusqu'à Tours. Et de là, donc, je suis arrivé à Tours sur la Via Ligeria. Et ensuite, peut-être on s'attardera sur les particularités de la Via Ligeria. Voilà pour répondre à la question, mais il y en avait une autre sous-jacente.
C'était pourquoi
partir de la maison.
Et comment tu as décidé, pourquoi tu es parti de chez toi ? Est-ce que c'était dans la symbolique ? Est-ce que c'était
Pour moi, oui. Dès le début, je me suis identifié parce que avant de partir sur le chemin vers Rome, j'avais fait des chemins de grande randonnée. J'ai fait le GR20, j'ai fait la haute route des Pyrénées entre Andaille et puis Banyuls par la ligne de Crète en Espagne. Mais c'était là, l'esprit, c'était différent. C'était la grande randonnée. Rien à voir avec le chemin dont j'ignorais tous les codes. Et juste une première anecdote, arrivé à Tours, donc là, sur première étape de la Via Ligeria, il pleut, je décide de rentrer dans un bar pour prendre un premier café, et immédiatement, la personne me dit, mais vous allez avec votre barda, vous arrivez qu'un sac à dos, enfin, vous avez tous cette image à l'esprit, mais vous allez où ? À Rome. Et là, quand vous dites à Tours, vous allez à Rome, bon, il faut argumenter un peu, quoi. Il faut argumenter un peu. Et en premier signe, elle m'a offert le café. Et je peux vous assurer que cette image est un signe concret de ce qu'est un chemin de pèlerinage par rapport au chemin de grande randonnée que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et les chemins de grande randonnée, à aucun moment, j'avais le même sac à dos, les mêmes chaussures, mais la destination, elle a illustré un peu ce qu'était ma motivation. Voilà.
C'est intéressant ce que tu dis. Et souvent, on voit que dans la population, la réaction est très différente quand il s'agit de gens qui sont en train de faire une randonnée et ceux qui sont sur un chemin de pèlerinage. Et ça ouvre toutes les portes, oui. Du café, au repas, oui. À la nuit. Enfin, oui. Je vais faire un bout de chemin avec vous. On est beaucoup à l'avoir expérimenté sur les chemins. Et donc, en fait, cette Via Ligeria, quand tu l'as pris, elle était effectivement, on en était au balbutiement. Mmh. Et ces balbutiements ont été très possibles grâce à la Fédération française de la Via Francigena. Et Claude, qui est ici, on a fait partie ensemble. On a été membres tous les deux du bureau de la Fédération française de la Via Francigena. Tu en es vice-président. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la FFVF ?
Alors, la FFVF, d'abord, c'est une fédération, c'est la Fédération française de la Via Francigena. Donc, en principe, elle ne s'occupe que de la partie française de la Via Francigena, avec maintenant des petites ramifications de part et d'autre. C'est une fédération qui regroupe 17 associations, donc des associations qui sont sur le chemin et des associations qui sont sur des chemins de raccordement, comme les haltes pèlerines qui sont donc avec la Via Ligeria qui est la plus connue. Mais vous avez par exemple une association association des Amis de Saint-Jacques de la région Lorraine, parce qu'il y a une voie qui part de Schengen et qui arrive à Langres, en Haute-Marne. Et là, à Langres, soit on prend la Via Francigena, soit on continue vers Cluny, le Puy. Vous avez ensuite nos amis d'Alsace, où là, il y a une voie qui part de Wissembourg, donc c'est au nord de Strasbourg, qui arrive à Belfort. À Belfort, vous prenez ce qu'on appelle le chemin des Hongrois qui va vers Vézelay et qui coupe la via Francigena. Donc, soit on va sur la via Francigena, soit on repart sur les chemins de Compostelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interconnexion entre les chemins de Compostelle et la via Francigena. Ça, c'est vraiment important. Alors, la fédération, son but, c'est de promouvoir le chemin pour les randonneurs, enfin, ce qu'on appelle, nous, les randonneurs pèlerins. On ne parle pas que de pèlerins, parce qu'on est d'abord, comme on marche, généralement, bon, il y a très peu qui font en vélo, comme on marche, on est d'abord randonneur. Donc, il faut être équipé comme un randonneur, avec les chaussures, le sac, le bâton, enfin, tout ce qui va avec. Ensuite, on est pèlerin parce qu'on est sur un chemin de pèlerinage. Donc ça, c'est le rôle de la fédération. Et le gros travail de la fédération, c'est d'éditer chaque année, en fait, il est remis à jour chaque année, c'est d'éditer un livret d'hébergement et services de toute la Via Francigena. Au départ, ce livret, il n'était que pour la France. Et nous, on est en Franche-Comté. On nous a dit, vous pourriez peut-être continuer à faire la Suisse. Donc, on a fait les hébergements de la Suisse. Et puis, en 2024, on nous a dit, toi, tu es allé à Rome, tu peux faire les hébergements de l'Italie. Et donc, notre association, on n'est que deux, on a fait toute la partie jusqu'à Rome. Et donc, maintenant, il y a un livret hébergement et services qui va de Canterbury jusqu'à Rome. Alors, quand on dit il y a dans les hébergements, il y a tout. Hein. Ça va du terrain de camping jusqu'à l'hôtel en passant par les accueils pèlerins, les gîtes, les chambres d'hôtes, il y a tout. Et notamment pour la Suisse, où là, c'est quand même assez onéreux, on a trouvé beaucoup d'hébergements religieux à des prix très, très modiques. Ça me paraît important. Et ce livret des hébergements et services, il est remis à jour chaque année. Et on peut vous dire que chaque année, il y a grosso modo 10% de modifications entre les gîtes qui arrêtent et les nouveaux gîtes que l'on peut découvrir.
Alors, Claude, du coup, toi, tu es non seulement à la FFVF, mais tu es aussi président de l'association des chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne-Franche-Comté. Et toi, tu t'occupes, donc nous, c'était très intéressant pour la Via Ligeria, parce que tu t'occupes du chemin des Hongrois, qui est donc un chemin d'approche de Compostelle, qui arrive à Vézelay.
Voilà. Alors, là, je le balise, c'est un chemin que je balise dans les deux sens, c'est-à-dire que généralement, je le remonte comme chemin de la Via Ligeria à partir de Vézelay, mais je fais le balisage pour la Via Ligeria et puis je me retourne et quand il manque de l'autre côté des balises pour Compostelle, je complète les balises de Compostelle. Voilà, on fait dans les deux sens. Ouais. Et donc on est à presque 50% de balisage réalisé. On a le problème de la Haute-Saône où là, on a un système très complexe où il faut demander beaucoup d'autorisation. Voilà. Mais ça va venir.
Alors, pour vous dire, Claude et son ami qui balisent dans les deux sens, c'est quand même 250 km à baliser dans les deux sens. On peut vraiment leur dire merci parce que pour nous, les pèlerins de l'Ouest, merci les gars. C'est vraiment un gros travail. Hein, merci. Alors, Jean-Yves.
Et une chose aussi, c'est que quand on me contacte, je donne les hébergements entre Vézelay et Besançon.
On va y venir plus tard. Justement, Jean-Yves, comment ça se passe sur la Via Ligeria? Orientation, tout, hébergement.
Ça se passe bien. Ça se passe bien. On est, sans doute, on est déjà un grand nombre à être arrivés jusqu'à Rome. Même si on était les premiers avec mon ami Bernard, Marie-Françoise, Josette, c'était en 2022. Chacun, on a forcément de nombreuses anecdotes à raconter sur le chemin. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que pour un pèlerin, les choses sont beaucoup plus simples qu'au Moyen-Âge, puisqu'on a le GPS, on s'oriente, on n'est jamais complètement perdu, même si on peut quand même se perdre. Mais on n'est jamais en panique. J'aurais rassuré tout le monde, les candidats donc, qui vont se mettre en chemin vers Rome, c'est facile. Enfin, je n'ai pas rencontré, donc à la question comment ça se passe, je dis ça se passe très bien. Maintenant, en 2022, les hébergements n'étaient pas aussi nombreux qu'elles sont aujourd'hui. C'était un peu plus compliqué. Et moi, dès le début, j'avais un hébergement. Il n'y avait pas encore l'hébergement à Tours chez Eric. Mais ce n'était pas trop compliqué sur Tours. Mais ensuite, entre Tours et Bourges, bon, y avait des creux. Mais on se débrouille toujours. Quoi. On se débrouille toujours.
Alors voilà, la Via Ligeria s'est transformée depuis ton passage et le passage de nombreux Romieux. Hein. C'est comme ça qu'on qualifie le pèlerin qui va vers Rome, puisque dans son premier tronçon de Nantes à Bourges, on a maintenant 170 familles qui accueillent à peu près. Donc là, maintenant, on est quand même dans autre chose. C'est beaucoup plus confortable que ça l'a été pour les tout premiers qui sont partis.
Néanmoins, on arrive sans trop de difficultés à Bucellégi, et là on reprend donc la Via Francigena qui est bien balisée, qui est bien décrite, et aujourd'hui j'ai hâte de vérifier. Je suis convaincu que la Via Ligeria, elle est aussi bien documentée que la Via Francigena. Non,
alors elle est documentée, mais elle est toujours pas, c'est toujours pas terminé le balisage, parce qu'il y en a des problèmes d'autorisation pour les traversées de territoire. Donc il faut que la commune ait accepté qu'on balise, et après on avance. On avance petit à petit. Après, il y a déjà un certain nombre ici dans la salle qui ont emprunté la Via Ligeria. On n'a perdu personne. Donc c'est déjà bon signe. D'une part parce qu'on a un pas à pas, on a des traces GPX, et que finalement tout le monde se débrouille. Et puis que les habitants des territoires traversés commencent à connaître, hein, et donc aussi peuvent aider dans la direction. Alors, donc une bonne expérience pour toi de la Via Ligeria.
Une bonne expérience, et je dois dire que je racontais l'anecdote à Tours dans ce petit café où j'expliquais que je partais vers Rome. Donc jusqu'à Bucellégi, on peut rencontrer des randonneurs, mais on marche rarement avec un. J'ai rarement marché avec un autre pèlerin. Par contre, la surprise, c'est de dire, vous marchez dans le mauvais sens. Tout simplement par rapport à ce qu'il a évoqué tout à l'heure, ce qui était évoqué sur le chemin des Hongrois vers Compostelle, qui lui va dans l'autre sens. Donc assez souvent, on peut nous alerter en disant attendez, non, vous êtes trompé là, c'est de l'autre côté.
Et
non.
Et même depuis Bourges.
Depuis Bourges. Voilà. Je n'ai que de bons souvenirs, sauf une anecdote, si je peux me permettre, pour illustrer aussi mon chemin vers Rome. Donc après Bucellégi, donc on est sur la Via Francigena, et il y a une étape qui nous amène à Besançon. Je crois que c'est en deux étapes, mais ma condition physique ce jour-là me permettait de faire la distance en une seule et même étape, sauf que arrivé à Besançon, j'ai trébuché, j'ai fait une mauvaise chute et je suis tombé donc lourdement la tête la première, et c'est terminé donc. Dans le camion des pompiers, les urgences, radio dans tous les sens, etc. J'ai toujours gardé la lucidité. Et là, c'est, parmi les émotions, sans doute la plus forte que j'ai eue à vivre, puisque d'un seul coup, c'est adieu vos vaches, cochons, couvées. On a dit, ça y est, c'est terminé, je n'irai pas jusqu'à Rome à pied. Eh bien, je vous invite, si une telle mésaventure vous arrivait, je vous invite vraiment à tenir bon. Et surtout, ne pas rentrer. C'est comme dans l'équitation, quand on tombe du cheval, il faut remonter. Je suis resté donc accueilli à la maison diocésaine de Besançon pendant une semaine avec des soins chez l'infirmière, et je suis reparti. mon fils, qui avait compris, comment dire, la détermination qui était la mienne, m'a accompagné sur 3 ou 4 jours pour être bien sûr que tout était en place, que j'avais gardé le sens de l'équilibre, et je suis arrivé jusqu'à Rome, parce que ma détermination, c'était de le faire en une seule et même fois. Là, je vous raconte tout, je me livre. Et donc, arrivé à Jougne, la santé de ma chère maman était à ce point que j'ai dû faire un break et être à son chevet. Malheureusement, elle est décédée. Et je suis reparti depuis Jougne, aussitôt que j'ai pu, c'est-à-dire en septembre, pour arriver à Rome. Et c'est à partir de Jougne que j'ai rencontré les premiers pèlerins sur mon chemin, et ils sont là ce soir, je vais les saluer, parce qu'ils ont écrit un formidable bouquin sur leur histoire qui s'appelle « Vers le Levant », Bernard et Marie-Françoise, avec qui j'ai cheminé une bonne partie du chemin. Bravo à vous. Voilà, donc beaucoup de... Finalement, sur le chemin, je ne suis pas allé à Compostelle. Je ne suis pas allé à Compostelle, j'ai fait le choix d'aller tout de suite à Rome. Alors, peut-être c'est une erreur, mais je me dis, j'ai encore quelques années devant moi, même si aujourd'hui même j'ai changé de...
Oh, ouais.
Non, je ne dis pas très fort.
On dira après.
Et je me dis que j'irai à Compostelle plus tard. Mais j'ai préféré ce formidable chemin qui était d'aller vers Rome.
Donc, une super expérience pour toi. Est-ce que ta vision de la Via Francigena, c'était aussi bien?
Alors moi, la Via Francigena, j'ai fait un peu comme Sigéric. Je l'ai fait dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis parti de Dijon. Et donc, de Dijon, j'ai rattrapé la Via Francigena à Champlit, en Haute-Saône. La première fois, je suis allé à Rome. Super, très beau, très belle balade. Et la deuxième fois, je suis reparti de chez moi. Je suis allé à Champlit et je suis remonté vers Canterbury. Et là, quand on parle de problème, eh ben là, j'ai eu un problème. C'est que j'ai fait une erreur de débutant. Je suis parti, j'étais fatigué, mais quand on part, on masque la fatigue. Je suis parti sur de trop longues étapes, et puis au bout d'un moment, flouf, plus de jus, et je me suis retrouvé aux urgences. Je me suis retrouvé à l'hôpital de Troyes, j'étais en dehors de la Via Francigena. Et là, la cardiologue m'a détecté un flûteur. Voilà. Donc, c'est-à-dire... Bon, bref. Et j'ai dit à la cardiologue, j'ai dit, appelez-moi un taxi. Je connais un endroit à Troyes où je peux me reposer 2-3 jours et repartir. Et là, elle m'a dit, oui, nous, on vous a pris un taxi pour vous ramener à Dijon. Voilà. Et donc, après, je l'ai repris, de là où je m'étais arrêté, pour aller jusqu'à Canterbury. Et je dois dire, quand on le fait dans l'autre sens, on ne voit pas grand monde. Enfin, si, on voit du monde, mais généralement, il y a très peu de personnes qui le font dans le sens inverse. Mais dans ce que j'ai entendu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un accueil, je me souviens, pareil... Je marchais, j'arrivais dans un village, j'ai vu quelqu'un en face qui m'attendait et qui m'a dit « Ah, quelqu'un qui remonte la Via Francigena » et qui m'a invité à boire un café. Vous voyez ? Et puis dans le Pas-de-Calais...
Tout est une histoire de café.
Non, il y a aussi une histoire d'eau. Dans le Pas-de-Calais, ça, c'était amusant. La première fois, j'arrive dans le Pas-de-Calais, à Rouquigny, c'était juste à la limite, et je vois des jeunes, j'étais là avec ma gourde, je leur demande de l'eau. Et le jeune, il me dit, je vais voir s'il y en a. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et il est revenu avec une bouteille d'eau. Il m'a offert la bouteille d'eau. Bon. Et après, systématiquement, quand je demandais de l'eau, les gens m'amenaient une bouteille. Et ils me disaient, l'eau de Schrobinet n'est pas bonne.
Merci, merci.
Bon, je suis Picard, donc je parle Picard.
Merci,
et ça a été systématique et ça a été de très belles rencontres. Quoi. Voilà.
Père Lefloc, dans cette année particulière 2025, comme on l'a cité tout à l'heure, ça va être l'année du jubilé. Comment le diocèse de Nantes s'est organisé justement pour participer à cet événement planétaire hein, qui va rassembler quasiment 40 millions de personnes durant toute l'année. Voilà. Comment on se prépare à ça?
Alors on se prépare de différentes façons. Tout d'abord par la participation, enfin le désir d'y aller seul ou en famille. Ça, c'est un certain nombre de chrétiens de Loire Atlantique qui vont rejoindre des frères et sœurs chrétiens du monde entier voilà, de leur propre initiative. Et puis ensuite, avec le service de pèlerinage, avec des groupes spécifiques, je pense par exemple un certain nombre de diacres permanents et leurs épouses ont participé il y a un peu plus d'une semaine au jubilé des diacres. Ils étaient accompagnés d'ailleurs par notre évêque. Et puis, en octobre prochain, je parle sous contrôle du responsable du pèlerinage qui est ici.
Le robot Didier, là.
Voilà.
Ici, voilà.
En octobre prochain, il y a un pèlerinage diocésain pour une centaine de personnes, accompagné par l'évêque également, pour vivre pendant 5 jours les démarches jubilaires. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la Porte Sainte, mais ça ne suffit pas hein, pour faire le jubilé, parce que ce n'est pas magique. Une démarche jubilaire. Et une démarche de jubilé, il faut donc passer par la Porte Sainte, il faut vivre l'Eucharistie, vivre un sacrement de pénitence et de réconciliation, et la prière aux intentions du Saint-Père. Voilà. Donc là, pareil, on essaie de se renseigner sur chaque mois. Le pape, il demande de prier pour quel sujet. Voilà, donc en février, c'était les vocations sacerdotales et religieuses. En mars, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. On est juste rentré. Voilà, on n'est que le premier. Le diocèse de Nantes propose, il doit rester quelques places encore ou pas beaucoup? Enfin, quand même quelques-unes peut-être. Donc, vous propose de participer à ce pèlerinage au mois d'octobre.
Alors, la Via Ligeria va participer de manière importante au jubilé, puisque, et nous vous invitons tous à venir nous rejoindre le 8 juin au matin devant la cathédrale de Nantes, parce qu'on va se relancer vers Rome. Les pèlerins des haltes pèlerines vont aller jusqu'à Rome à pied en partant de Saint-Pierre de Nantes. On aura aussi d'autres événements à venir autour du jubilé. Donc le 8 juin au matin, on vous invite venir faire quelques pas, quelques kilomètres, quelques jours avec nous. Nous, on va marcher avec un groupe de 10, à peu près 10, jusqu'à Bucellégie, Besançon. Donc là, on va ressolliciter nos amis bourguignons. Et puis après, des équipes de notre asso vont jalonner jusqu'à Montefiascone, qui est à 120 km de Rome. Et là, un petit groupe les rejoindra pour finir cette dernière semaine de marche, pour rentrer à Rome et porter notre association jusque sur la place Saint-Pierre. Voilà.
Alors, on peut dire que à la date d'aujourd'hui, il y a déjà plus de 300 pèlerins qui ont emprunté la Via Ligeria. Une quarantaine d'entre eux est arrivée à Rome. Et puis, parfois, dans la tête des pèlerins, de nouvelles envies surgissent lorsqu'on est arrivé à Rome.
Et oui, parce qu'après Rome, le chemin continue. Et puis, un chemin en appelle un autre. Et pour ma part, tout juste arrivé à Place Saint-Pierre avec mes amis, a surgi, l'idée de poursuivre. Et donc, je suis reparti depuis Rome, le 17 octobre 2023, pour rejoindre Santa Maria de Lucca, qui est le talon de la botte d'Italie. C'est le prolongement de la Via Frontigena Nord jusqu'à Rome, et donc la Via Frontigena Sud. Elle donc nous amène jusqu'à Santa Maria. Et quand on va sur Santa Maria, on passe devant un port, par un port qui s'appelle Bari. Vous vous situez sur la carte, hein, sur l'Adriatique, Bari. Et là, j'ai eu, l'idée de dire, est-ce que je dois bien poursuivre jusqu'à Santa Maria de Lucca ou tout simplement traverser l'Adriatique et puis aller de l'autre côté en Albanie. Donc la raison l'a emporté. Et à ce moment-là, j'ai quand même poursuivi mon chemin pour arriver à Santa Maria de Lucca le 30 octobre 2023. Donc sur une période, c'est pas facile de marcher. Vous avez tous l'expérience de la randonnée au long cours. Et il faut bien reconnaître que même en Italie du Sud, c'est pas la meilleure période pour arriver à Santa Maria. Mais j'y suis arrivé. Et là, je voudrais, comment dire, rajouter ce qui a constitué pour moi une forte émotion, puisque je marche en solitaire, mais ma démarche est solidaire, puisque je vous ai dit en avant-propos que j'avais créé une association avec quelques amis, une association humanitaire au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est un pays qui est en grande souffrance, chaque année, il me faut collecter donc un budget de près de 40 000 euros aujourd'hui pour financer la scolarité de 150 collégiens, la cantine, etc. Et donc, la démarche solidaire m'a conduit, comment dire, à communiquer tous les jours sur mon chemin et à ouvrir une cagnotte, pour collecter des fonds. Et avec un certain succès, puisque à l'heure qu'il est, pour rejoindre Santa Maria de Lucca depuis la maison, j'ai fait 4000 km. Et donc, j'ai collecté 8000 euros. Et je marche donc pour 2 euros de l'heure, hein, si vous faites le rapprochement. Ce qui n'est pas si mal, finalement, puisque chaque jour, pour donner un peu de sens, et dans ma communication, c'est ce que je fais, pour donner un peu de sens, ben, chaque jour, quand on fait 25 km, 30 km, donc je collectais en moyenne 50 à 60 euros par jour. Et c'est exactement ce qu'il faut pour financer la cantine de 200 élèves au collège. Et c'était ma fierté. Et lorsque je suis arrivé à Santa Maria de Lucca, je fais la même chose à chaque fois que j'arrive donc dans une de mes destinations. Je fais les moyens techniques aujourd'hui nous permettent de faire beaucoup, en l'occurrence, de faire un échange vidéo avec visio avec les enfants du Burkina qui n'avaient jamais vu la mer, puisque je rappelle que le Burkina il n'a pas de côte, jamais vu la mer, et ils ne me connaissent pas parce que je ne peux plus aller au Burkina depuis 5 ans compte tenu des problèmes de sécurité. Et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions quand on échange avec les enfants. Voilà ce que je voulais simplement donner comme illustration.
Merci de ces mots profonds.
Et donc, je suis reparti en octobre dernier. Parce que un chemin en appelle un autre. Donc, je suis reparti de Bari. Et donc, j'ai traversé l'Adriatique pour arriver à Durrës en Albanie. Et là, j'ai marché donc sur les chemins d'Albanie, de Macédoine, de Grèce et de Turquie pour arriver à Constantinople, enfin Istanbul, pardon. Mais les Grecs préfèrent qu'on dise Constantinople. Il y a la carte derrière. Ah ouais. Voilà. Donc, je suis arrivé à Istanbul le 24-25 octobre dernier. Et je repars là le 8 avril d'Istanbul, là où je suis arrivé, pour marcher vers Jérusalem en traversant donc la Turquie dans son milieu, sur l'axe nord-sud, pour rejoindre par un chemin qui s'appelle le Sufi Trail, qui arrive à Konya. Et de Konya, après, bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai mon ami Patrick Hubert, qui est un pèlerin au long cours, qui est allé en pionnier pour ouvrir mon chemin l'an dernier. Il est arrivé à Jérusalem en passant par ce chemin. Après, on traverse Chypre. Et malheureusement, naturellement, compte tenu de la situation actuelle, voilà, donc on me dit de faire court, donc je vais arrêter là. Simplement, mon idée, c'est de me poser à Chypre, prendre l'avion pour aller à Amman, et après prendre le chemin pour rejoindre Jérusalem. Et j'ai appris que l'année du jubilé, on n'est pas obligé d'aller à Rome, de retourner à Rome, et c'est la bonne nouvelle pour moi, puisque je pourrais prendre une porte sainte à Bethléem. Je vais faire les trois. Hein, vous vous rendez compte?
Très beau.
Si avec ça, je n'ai pas mon paradis.
Bon, merci, on pourrait, je pense, parce que là, ils sont plusieurs à être allés jusqu'à Jérusalem ou en route, hein, je pense à Josette, là, qui est quelque part là. On pourrait en faire une table ronde qui pourrait durer 4 heures. Enfin, merci d'avoir partagé ça. Claude, très rapidement, un petit mot, parce que le temps passe vite et on a encore plein de choses à faire.
Oui, c'est-à-dire que nous, notre association, on envoie des documents à tous les hébergeurs de France et de Suisse pour avoir des informations sur les passages des randonneurs pèlerins. Et juste quelques chiffres, entre la France et la Suisse, on arrive à peu près à 850 passages. Sachant qu'il y a des départs, il y a à peu près 30% des gens qui arrivent à Rome, entre ceux qui partent de Canterbury, ceux qui partent de Calais, ceux qui partent, les étrangers, notamment d'Europe du Nord, qui partent de chez eux et qui arrivent sur la Via Francigena et qui vont jusqu'à Rome, et puis d'autres qui partent sur un morceau de la Via Francigena jusqu'à Rome. Donc un peu plus de 800, sachant que aussi on a pas mal de départs depuis Lausanne en Suisse, et des Suisses et des étrangers, puisque Lausanne est très bien desservie par le TGV. Voilà. Et dernier point, 36 nationalités différentes représentées. Ce qui veut dire que la Via Francigena est mondialement connue.
Mmh. Bon, et on va y contribuer. Bon, alors, juste avant de passer aux questions de la salle, moi, j'aimerais savoir, parmi vous, combien ont déjà foulé la Via Nigeria ? C'est pas mal. Combien ont marché sur la Via Francigena ? Bon, c'est pas mal non plus. Bon, mais c'est super. Alors, qui est-ce qui a envie de se mettre en route vers Rome ?
Ah, bravo !
Bon, alors, si vous avez des questions, un petit temps de questions.
N'hésitez pas, hein. Nos invités sont vraiment là pour...
Où ça ?
Des questions ? Vous parlez de la Via Nigeria, là ? Non, non, on suit... quand on a créé cet itinéraire-là, on s'est appuyé sur plein de choses. On ne suit pas ni l'Eurovélo 6, ni non plus le GR3, quelquefois sur le GR3, quelquefois sur la Loire à vélo, quelquefois sur des sentiers de bord de Loire, quelquefois dans les grands chemins des grandes forêts comme Chinon, par exemple. Et puis après, en Bourgogne-Franche-Comté, on s'est appuyé, bien sûr, sur le travail des Bourguignons. Enfin, voilà, ouais. Non, non, il n'y a pas un axe unique, pas du tout. Comme il n'y a pas beaucoup de questions, j'en pose une peut-être. Vous nous invitez à venir marcher sur la Via Nigeria là bientôt. Mais c'est quoi les dates? C'est quand? C'est où? Comment ça se passe?
Alors, ça va bien se passer. Tout est dit. Je suis un peu comme Jean-Yves, moi. Ça se passe bien. Non, alors donc le grand départ sera le 8 juin de la cathédrale de Nantes. Après, on a tout un tableau qu'on mettra un peu en ligne. Des étapes qu'on va faire. Par exemple, le premier soir, l'étape sera à Oudon, à un premier tronçon de 28 km, je crois. La commune nous attendra, la paroisse nous attendra. Et tout au long de l'itinéraire jusqu'à Bucelegi, on sera accompagné des gens. On va bien sûr inviter les gens des villages traversés. On a des villes partenaires à venir avec nous à la journée, marcher quelque part. Voilà. Et on aura un calendrier qui va vraiment être disponible bientôt. On travaille à beaucoup de choses. Mais il faut du temps pour organiser ça. Voilà. Mais n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes intéressé le 8 juin pour quelques pas, quelques kilomètres ou quelques jours, comme je le disais. Donc nous allons traverser, voilà. Par exemple, on a le premier tableau, ce qui vous donne un peu les distances et les points d'arrêt. Alors c'est quand même relativement plat sur les premières étapes. Il y a quand même des bonnes étapes, mais... Pour vous remettre un peu en situation, avec Anne-Laure, on va donc retraverser la France. Mais nous, dès le point d'arrêt, on va retourner au travail dès le lundi qui suit. Donc, il faut qu'on accélère un peu. Vous pouvez descendre après où il y a les associations. Vous allez au Alte Pèlerine et puis vous avez toutes les docks qui vont être là. Voilà. Ça, c'est le tableau. C'est le tableau quasi définitif. Ouais. Voilà. Voilà.
Dans la forêt, là.
Comme le 8 juin, tout le monde est invité. Hein. Alors pour vous dire, le 8 juin au matin, on sera devant la cathédrale, tout le monde sera invité, et l'évêque fera une grande bénédiction des pèlerins, lanceront comme un peu ça se passe au puits, pas dans la même circonstance, bien sûr, parce que notre cathédrale est encore fermée, mais ce matin-là, il y aura un grand envoi qui sera fait, et puis après, on va cheminer, on va gagner la Loire, et puis cheminer plein est. Quoi. À 8h30, je veux dire. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on reste vraiment à votre disposition pour ces itinéraires-là. On va remercier nos invités, mais avant, Anne-Laure.
Oui, je voulais dire que donc nos amis là qui ont... les François, levez-vous, les petits amis. Il est parti chercher des livres, peut-être ? Alors, vous avez votre livre qui est en dédicace au premier étage, donc leur aventure de la Bretagne... jusqu'à Rome en passant par la Via Ligeria et la Via Francigena. Toi aussi, tu as des livres sur ton stand, donc là, rez-de-chaussée, où tu racontes tes pèlerinages.
Oui, parce que moi, j'ai commencé par Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant de chez moi. Et ma motivation, c'était le premier jour de départ en retraite.
Ah, c'est ça, ça motive la retraite, ça motive. Donc en fait, il y a plusieurs ouvrages qu'il vous proposera, et puis nous on vous propose aussi à la sortie là le livre sur la création de la Via Ligeria et l'itinéraire jusqu'à Rome, où on a eu la chance de rencontrer le pape à qui on a présenté le projet. Il était encore en forme.
Ouais.
Donc.
Merci à nos intervenants, le père Guillaume Le Floch, Jean-Yves Beaune et Claude Sancier. Merci beaucoup et merci à la chère Anne-Laure. Voilà. Vraiment, on reste à votre disposition pour revenir au forum. 17h30 ici, tirage de la tombola pour gagner votre sac à dos. Voilà, vous pouvez redescendre, les associations vous attendent. Merci encore et à très vite.